Le Corse et l'Auvergnat.
Jérémy Gallon.
Romain Marcilli.
Bonjour Romain.
Bonjour Jérémy.
Les poubelles s'accumulent, les raffineries sont bloquées, les trains restent en gare. En quelques jours à peine, nous sommes devenus aussi familiers avec les termes « motion de censure » et « article 49.3 » que s'ils avaient toujours fait partie de notre quotidien. Et pourtant, le monde n'attend pas que la France réforme son système de retraite pour évoluer à grande vitesse. Des banques s'effondrent aux États-Unis et en Suisse. Les grands équilibres géopolitiques, notamment au Moyen-Orient, sont en pleine recomposition. Xi rend visite à son ami Vladimir. Bref, autant de sujets qui nourrissent une actualité très riche.
Et donc, comme chaque semaine, nous parlerons sur un ton décalé de politique, de géopolitique, de culture et de bien d'autres choses. Au programme de cet épisode, nous discuterons de la crise politique qui est en train de se jouer en France dans le contexte de la réforme des retraites.
Nous reviendrons ensuite sur un fait géopolitique majeur, peu évoqué par nos médias, l'accord stratégique entre l'Iran et l'Arabie Saoudite conclu sous l'égide de la Chine.
Et nous finirons comme chaque semaine par nos coups de cœur qui nous amèneront à parler du parcours pour le moins romanesque de François Mitterrand et de ses amitiés sulfureuses, ainsi que de la guerre des semi-conducteurs au cœur des enjeux géostratégiques mondiaux.
Mon cher Romain, nous ne pouvons pas ne pas évoquer cette semaine la situation politique extrêmement tendue en France. Mais plutôt que de nous enferrer dans un long débat pour ou contre la réforme des retraites, nous souhaitons nous interroger sur les raisons qui expliquent pourquoi nous observons un tel niveau de tension, de violence politique, disons-le de haine en France, pourquoi notre pays semble aujourd'hui incapable de débattre de manière apaisée, et cela pas seulement depuis l'activation de l'article 49.3 par le gouvernement jeudi dernier, mais depuis longtemps, très longtemps, et ce sur un nombre croissant de sujets. Et c'est donc par cette question que je souhaitais commencer. Comment, d'après toi, en sommes-nous arrivés là ?
Alors, tout cela n'a pas commencé avec le 49.3, mais le 49.3 a quand même mis une pièce assez importante, a remis une pièce assez importante dans la machine. Alors, sans vouloir, bien sûr, comme tu l'as dit, rentrer dans une nouvelle fois le débat sur cette réforme des retraites, qui est une réforme finalement assez légère, très paramétrique, qui ne bouleverse pas la société française, la légèreté de cette réforme aura encore plus étonnant cet écart entre une ambition politique, somme toute, assez modérée, et la panique, la haine, les violences, les tensions que cela peut créer. Donc, pour comment expliquer cet écart entre une réformette, finalement, et une contestation massive ? Alors, il y a quand même des sujets qui sont, on va dire, conjoncturels, et donc liés à cette réforme-là, on ne peut pas ne pas en parler tout de même. Il y a une erreur de fond, celle de tout miser, en termes de communication, sur un totem assez inflammable, qui est l'âge pivot, alors qu'on est dans une société qui revendique beaucoup un besoin à la fois de justice et de liberté dans un marché du travail qui, quoi qu'on en pense, risque d'être absolument bouleversé dans les prochaines décennies, si ce n'est avant, notamment avec l'avènement de l'intelligence artificielle et beaucoup d'autres faits sociaux. Donc on a une réforme quand même qui donne l'impression de pénaliser avant tout les carrières les plus modestes et qui s'arc-boute sur une question, celle de l'âge, qui n'est pas forcément essentielle. Tout le monde comprend qu'il faut travailler plus étant donné que l'espérance de vie augmente, mais de s'arc-bouter sur la question de l'âge, je pense que c'était une erreur assez fondamentale. Et puis, tu as quand même des erreurs de communication. On les pleure parfois. Aujourd'hui, dans le débat médiatique, dans le jeu médiatique, la communication prend un rôle prépondérant. Je pense que ça a toujours été le cas dans la politique. Même sous l'Antiquité, c'était un autre type de communication. Mais la force du verbe a toujours fait l'essence du jeu politique. Donc, c'est pas uniquement de la superficialité. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet ? De ne cesser d'annoncer qu'on ne passera pas par le 49.3, alors que finalement, on s'y résout. De ne cesser de dire qu'il s'agit d'une réforme de justice, alors que c'est avant tout une réforme, un ajustement comptable, financier, nécessaire, indispensable, on peut en débattre, soumis peut-être à la pression des marchés financiers, probablement, mais on peut le comprendre, mais ce n'est pas une réforme avant tout de justice. Politiquement, enfin, laisser la réforme au bon vouloir des LR, un parti d'opposants qui par ailleurs a subi de plein fouet, on va dire, le talent politique de la du pouvoir depuis de nombreuses années, c'était aussi risqué. On voit bien les dissensions qu'il y a. Donc, je crois qu'il y a quand même, on peut parler, je serais heureux d'en parler avec toi, bien sûr, d'éléments beaucoup plus structurels. Mais il y a quand même ces éléments conjoncturels qu'on ne peut pas écarter dans ce tableau.
Alors, tu as mis sur la table de nombreux points. Moi, il y a deux points peut-être sur lesquels j'aimerais revenir. D'abord, sur l'activation de l'article 49.3 qui fait beaucoup de débats. D'abord, je pense qu'il faut quand même rappeler les choses. On peut effectivement discuter de sa pertinence, la pertinence de son activation, de la légitimité qu'a le gouvernement à l'utiliser ou pas aujourd'hui. En revanche, ceux qui disent que c'est un outil non démocratique, à mon avis, sont dans une forme d'hypocrisie, parce que par définition, il fait partie de nos institutions. En revanche, moi je considère que c'était, à mon avis, une erreur de l'activer. Pourquoi c'était une erreur de l'activer ? Parce que je pense que tu serais allé au vote, ça permettait de clarifier la situation. C'est-à-dire que soit la réforme était adoptée par l'Assemblée nationale et ça permettait de clore le chapitre, soit elle était refusée et il y avait un vote en majorité négatif. Mais à ce moment-là, ça voulait dire tout simplement que de toute façon, si tu as un vote négatif sur cette réforme des retraites, ça veut dire que l'actuel gouvernement ne sera pas capable de passer d'autres réformes dans les mois et les années qui viennent. Et que donc une nécessaire clarification doit avoir lieu. Et ça supposerait derrière une dissolution. Et donc, démocratiquement, je pense que c'était la voie à suivre. Et par ailleurs, je ne suis pas du tout sûr, je ne suis pas un analyste politique, mais je ne suis pas du tout sûr que cette clarification politique aurait nécessairement été très négative pour le parti présidentiel. Parce qu'on sait très bien que l'extrême-gauche a, par le chaos qu'elle a induit au cours des derniers mois, pas nécessairement gagné des points dans l'opinion publique, je pense une partie substantielle de l'opinion publique, et l'air, pour les raisons que tu as mentionnées, par aussi son incapacité à établir une ligne directrice, a, je crois aussi, créé pas mal de confusion chez une partie de son électorat. Donc, ça, c'est le premier point. C'est que je pense qu'il y a eu effectivement une erreur qui a été faite sur ce plan, et je pense qu'il aurait mieux fallu aller à un vote, quitte à ce que le vote soit perdu, ce qui aurait par ailleurs permis au président, potentiellement après une dissolution, de redonner un élan à son mandat. Là, on se retrouve dans une victoire à la Pyrrhus, où, dans les faits, si les motions de censure ne sont pas adoptées, il aura effectivement une adoption de la réforme des retraites, mais il se retrouve dans l'incapacité de réformer dans les mois qui viennent. Et puis, il y a juste un deuxième point sur lequel j'aimerais revenir, c'est la question des marchés financiers, qui, à mon avis, est une question très importante. Parce que je pense que le gouvernement n'a pas souhaité, au départ, expliquer que cette réforme devait être mise en œuvre et adoptée, notamment parce qu'il y a un problème de crédibilité financière de la France. Et ça nous amène à notre discussion de la semaine dernière, et notamment de notre rapport en France extrêmement compliqué à la réalité de nos finances publiques. Et aujourd'hui, c'est vrai que de manière un petit peu catastrophée, un peu au dernier moment, le gouvernement français s'est expliqué que la réforme des retraites a été adoptée, notamment pour les marchés financiers. Je pense que là, ça nous amène à deux réflexions. Un, il y a quand même un vrai problème de pédagogie. Mais ça, on l'avait déjà évoqué la semaine dernière. Mais je trouve qu'il y a aussi une immense hypocrisie de la plus grande partie du spectre politique qui va te dire « Ah, c'est terrible, cette réforme est adoptée à cause de nos méchants marchés financiers qui sont encore là, qui nous mettent la pression, etc. » Mais je tiens quand même à rappeler que les marchés financiers, c'est aussi ceux qui permettent à la France d'emprunter, de vivre finalement très au-dessus de ses moyens. Que si on a pu avoir une politique du quoi qu'il en coûte durant le Covid, c'est grâce aux marchés financiers. Si on a un système d'aide sociale qui est probablement le plus généreux au monde, c'est parce qu'on est capable d'emprunter sur les marchés financiers. Et donc aujourd'hui, finalement, on paie un peu le prix de tout ça. C'est-à-dire qu'effectivement, on a dépensé pendant des années, des décennies bien au-dessus de nos moyens. Aujourd'hui, à un moment donné, le mur arrive. Et donc effectivement, une réforme, et tu l'as rappelé, aussi modeste soit-elle, aussi faible soit-elle en termes d'économie, parce que c'est une réformette, effectivement, sur son impact à court, moyen terme sur les finances publiques, doit être adoptée. Et ça pose quand même une question sur l'irresponsabilité qui a été celle de nos dirigeants, de droite et de gauche, au cours des dernières décennies.
Et ça rappelle, si besoin en est, que la question des finances publiques est une question de souveraineté.
Tout à fait.
Et on s'en rend bien compte là. La question n'est aujourd'hui, des retraites ne compte quasi plus dans on va dire la polarisation des débats. Quoi qu'on pense de la réforme, le problème n'est plus là. Il y a quand même un souci démocratique. J'ai une nuance avec toi par rapport au 49.3. Je conçois bien sûr que c'est un outil démocratique, enfin je ne sais pas, en tout cas c'est un outil légitime, puisqu'il est dans la Constitution. De ce point de vue-là, il n'y a rien à dire. En même temps, je pourrais être avec beaucoup de mauvaise foi, que j'assumerai en l'occurrence, je pourrais dire que lorsqu'on accuse les députés LFI, par exemple, de déposer plein d'abonnements et de bloquer, après tout, c'est aussi dans la Constitution que les députés ont droit de poser des amendements. Donc il y a la lettre et puis l'esprit, il y a l'usage qu'on fait. Et là, en l'occurrence, tu as une réforme qui est présentée comme importante, Je crois qu'elle a été assez peu évoquée dans le débat public pendant la campagne présidentielle, mais c'est quand même été un des seuls éléments un tout petit peu discuté durant la campagne, donc présentée comme importante, qui est insérée dans le projet de loi de financement rectificatif de la Sécurité sociale, alors qu'on est en janvier, c'est un peu de ces taux, qui fait l'objet d'une procédure accélérée, qui finalement est adoptée via le 49.3 avant un vote, et je partage totalement ton analyse, bien sûr un vote aurait été probablement souhaitable. Et puis, tu as donc cette réforme-là, aussi importante qu'elle puisse être présentée, qui n'aura jamais été soumise au vote de l'Assemblée nationale, alors que la grande majorité de la population, selon les enquêtes d'opinion, est contre. Donc, je crois que c'est inconcevable démocratiquement. Et le 49.3 a été utilisé à de très nombreuses reprises dans l'histoire de la Ve République, car ce 49.3 était le 100e. C'était un peu... Et sur les 100, je crois que c'était le 11e présenté par le gouvernement Borne. Alors que, donc c'est déjà plus de 10% du stock, alors que, et à mon avis c'était une décision très sage à l'époque, dans la réforme constitutionnelle de 2008 par Nicolas Sarkozy, l'usage du 49.3 avait été limité. Et il y a aussi une question de rapport à la démocratie. C'est-à-dire que, oui, le 49.3 fait partie, depuis l'origine de la Ve République, de l'arsenal constitutionnel. Peut-être qu'il correspond moins, aujourd'hui, à la fois au rapport de force politique tel qu'il est perçu par les citoyens, et puis à leur aspiration d'une démocratie un peu plus directe. Mais dans un contexte, parce qu'on parle du gouvernement et du pouvoir, mais où les oppositions ne recherchent rien de compromis, dans lequel elles partent dans des contradictions intellectuelles radicales, pour le moins étonnantes et décevantes, on a un cocktail très dangereux, où peut-être qu'une des seules issues serait un retour aux urnes pour donner un nouvel élan, ou alors, si on est plus cynique, une éventuelle censure du Conseil constitutionnel, mais qui ne grandirait personne.
Non, mais je pense que, et tu le dis d'ailleurs, on est dans une scène parlementaire où il n'y a pas de compromis possible, il n'y a pas de discussion, et je trouve que ça soulève quand même une vraie question, notamment par rapport à d'autres démocraties autour de nous, qui ne sont pas nécessairement dans une situation resplendissante, mais où il y a quand même la capacité à débattre de certains sujets, à bâtir des compromis. Et donc moi, c'est vrai que c'est un petit peu, c'était la question que je te posais, que je te pose, c'est pourquoi on a cette difficulté aujourd'hui à débattre en France ? Alors, est-ce que c'est finalement qu'on arrive complètement au bout de notre système institutionnel ? Est-ce que ça veut dire aussi que la Ve République, telle qu'elle a été pensée et puis adaptée au fur et à mesure du temps, est aujourd'hui à bout de souffle, avec cette figure présidentielle dont on voudrait faire quelqu'un d'omnipotent, omniscient, mais qui finalement n'arrive plus aujourd'hui à répondre aux aspirations d'une société extrêmement divisée, et puis derrière un Parlement, alors qu'on avait dit, lorsqu'il avait été élu, ce Parlement, il sera plus représentatif de la société française, donc il y aura plus de débats au Parlement, mais on s'aperçoit qu'en fait, non, il n'y a pas de débat au Parlement, il y a beaucoup de haine, il y a beaucoup de violence verbale, presque physique, mais il n'y a pas de débat, donc comment est-ce qu'on repense ce système ? Et puis plus généralement, enfin, tu as quand même un état de tension du pays. Alors, je veux bien qu'on dise régulièrement « Ah, la France est en 1788 » et puis finalement, les années passent et ça ne se reproduit pas. Mais on sent aujourd'hui qu'il y a quand même une société qui est au bord de l'explosion. Or, c'est vrai que beaucoup de gens qui sont à l'étranger, qui regardent la France d'un peu loin, ont du mal à comprendre ça. Parce qu'ils disent « Quand même, vous avez un système. » Alors, c'est pas du tout sous-estimer le fait que énormément de nos concitoyens peinent à boucler les fins de mois, ont des difficultés, vivent dans un sentiment de déclin social énorme et que ça nourrit de la colère sociale, qu'il y a eu des erreurs de communication immenses du gouvernement, un sentiment de mépris ressenti par certains. Mais malgré tout, il y a quand même le sentiment, pour des gens qui regardent de l'extérieur la France, que le pays a quand même un système de protection sociale et d'aide sociale qui a quasiment très peu d'équivalent au monde et qu'aujourd'hui, quand on parle d'une réforme des retraites, quand on regarde le paysage autour de nous, c'est quelque chose qui est vu un peu comme une évidence dans la plupart des pays. Et pourtant, en France, ça bloque.
Là encore, je pense que c'est deux dimensions, la conjoncturelle et la structurelle. Structurelle, sans rien remettre en cause de la force et de la puissance de la Constitution de la Ve République, il y a structurellement, à mon avis, perversion, le mot est peut-être un peu fort, mais dans la pratique du pouvoir, qui remonte à des décennies, c'est-à-dire une mise sous tutelle du politique par la technocratie. Je crois que la Ve République souffre beaucoup de cela, de même que, pour reprendre une formule de David Disnard, de même que la 4e République a souffert du jeu des partis, de la mainmise des partis dans politiciens dans l'exercice du pouvoir, peut-être la Ve République est en train de crever de cette mainmise de la technocratie. Donc ça, c'est le point de vue structurel qui, encore une fois, dépasse largement ce pouvoir. Pour ce qui concerne l'aspect plus conjoncturel, il faut regretter, mais ça dépend de beaucoup de facteurs, le débat de l'élection fondamentale, qui est l'élection présidentielle, a été en grande partie escamoté. Alors, pour des raisons politiques, politiciennes, pas saines du tout, mais aussi, bien évidemment, à cause du contexte. On est dans un contexte de guerre en Ukraine qui fait que la géopolitique, et c'est aussi un aspect majeur, a pris toute la place dans le débat et on a peu parlé d'autre chose. Et puis enfin, suite à ce débat présidentiel un peu escamoté, à une élection tendue, c'est quand même la deuxième élection présidentielle consécutive où le deuxième tour est un vote contre et non pas un vote d'adhésion. Il y a eu également une élection législative qui n'a pas donné de majorité absolue au camp présidentiel ni à aucun camp. Et dans ce cas-là, il y a une maturité démocratique à avoir de manière à créer des coalitions. Là encore, je crois que Nicolas Sarkozy, même s'il a été vilipendé par une partie de la droite, exprimait un point de vue assez sage, c'est-à-dire qu'il fallait forcément qu'il y ait un accord politique global qui aurait pu passer par des ministres, LR ou autres. En tout cas, un accord politique. Cet accord politique n'a pas eu lieu. On s'est dit, on va le faire au cas par cas selon les textes, mais on voit bien à travers ce texte emblématique de la réforme des retraites, que ça ne marche pas. Là où dans quasiment toutes les démocraties européennes, Allemagne, Italie, qui sont beaucoup plus parlementaires, certes, mais qui sont quand même des grandes démocraties, ont construit des coalitions avant, pas au cas par cas.
Tout à fait, mais je crois que on va peut-être fermer cette séquence sur les retraites et sur la situation politique interne. On souhaitait parler aujourd'hui aussi d'un accord qui a été très important, qui a été finalement assez peu traité par les médias français, mais qui, à mon avis, est passionnant. C'est l'accord qui a été conclu entre l'Iran et l'Arabie Saoudite le 10 mars 2023, donc accord de rétablissement des relations diplomatiques. Et cet accord est extrêmement intéressant, notamment parce qu'il a été conclu à Pékin, et que sur la photo qui immortalise cet accord, on voit le conseiller saoudien à la sécurité nationale, Moussad Ben Mohamed Al-Haiban, également un membre du Conseil de sécurité nationale suprême iranien, Ali Shamkhani, mais au milieu de ces deux hommes, Wang Yi, qui a été le ministre des Affaires étrangères chinois jusqu'à très récemment. Et c'est un rétablissement des relations diplomatiques entre deux pays qui les avaient rompues depuis 2016. Et donc, évidemment, ça soulève d'immenses questions sur, d'abord, que veut dire cet accord, et puis, le rôle de la Chine sur la scène diplomatique mondiale, et notamment au Moyen-Orient.
Oui, bien sûr, la question des retraites éclipse et tout, donc c'est normal qu'on en ait moins parlé. Il y a deux aspects dans ce grand accord. Il y a déjà, le premier aspect, c'est Iran-Arabie Saoudite. En soi, c'est déjà un premier événement, puisque c'était deux pays qui n'avaient plus de relations diplomatiques depuis 6-7 ans, qui ont des oppositions, je veux dire, majeures depuis très longtemps. La première, bien sûr, est liée à leur rivalité religieuse. Tu as un pays, l'Arabie Saoudite, qui est le berceau du wahhabisme, forme ultra-conservatrice de l'islam sunnite. Et puis en face, l'Iran, une république islamiste chiite. Donc un regard très différent sur la manière dont l'islam doit être pratiqué. Et puis deux rivaux en termes d'influence régionale qui ne cessent de se faire la guerre depuis des années, mais comme tu dis, c'est une expression que j'aime bien, par proxy. Donc, c'est-à-dire indirectement. Il y avait deux terrains principaux, la guerre en Syrie et la guerre au Yémen, où chacun soutient des camps différents, et puis on s'évite de se mettre sur la gueule, excuse-moi l'expression, directement, mais on s'affronte tout de même. Et puis, une scène géopolitique plus globale, où une politique étrangère très différente entre un pays, l'Arabie Saoudite, qui a des relations assez privilégiées avec les États-Unis, tandis que l'autre, l'Iran, est en conflit ouvert avec les États-Unis et puis Israël. Donc ça, c'est un premier point que je trouve est intéressant. Et je ne sais pas qu'est-ce qui est, en fait, quelle est la réalité de cet accord. C'est ça dont j'aimerais beaucoup discuter avec toi, parce que sur le papier, tout semble pacifique, mais quel en est-il vraiment au-delà de la communication? Puis le deuxième point que tu as mentionné, c'est la Chine. Est-ce que c'est encore une fois de l'affichage ou est-ce que c'est, selon toi, une donnée beaucoup plus structurelle de la Chine qui veut maintenant redessiner, avec son influence et son soft power, notamment, la géopolitique au Moyen-Orient?
Alors, ce qui est très intéressant dans cet accord, c'est qu'il a été soit complètement ignoré par une grande partie des médias, soit commenté, notamment dans les think tanks à Washington, mais de manière, je trouve, presque exagérée. C'est-à-dire qu'avec la grille de lecture qui était de dire, ça y est, le grand acteur géopolitique mondial qui va redéfinir la diplomatie au Moyen-Orient, c'est la Chine, et c'est un échec majeur pour les États-Unis qui sortent peu à peu du Moyen-Orient. Je pense que la grille de lecture est beaucoup plus nuancée. Pourquoi elle est plus nuancée ? D'abord, il va falloir voir vraiment quelles sont les étapes concrètes qui suivent cet accord. On va d'abord le voir dans un premier temps avec la réouverture qui est prévue normalement des ambassades dans les deux pays. Il y a un signe plutôt très positif, c'est que le roi d'Arabie Saoudite a invité le président Raïsi pour une visite en Arabie Saoudite, donc le président iranien. Donc il semble qu'il y ait volonté des deux parties de suivre sur cet accord. Un autre terrain sur lequel on va voir s'il y a vraiment une volonté de travailler ensemble, c'est la guerre au Yémen, que tu as mentionné, où d'un côté, les Saoudiens ont engagé il y a quelques années une guerre absolument destructrice. Je rappelle quand même que c'est une des pires crises humanitaires au monde. Et puis, de l'autre côté, il y a les Houthis qui sont soutenus notamment par les Iraniens. Ce que l'on voit, c'est que depuis maintenant 2 ans, les Saoudiens essaient quand même de sortir de cette guerre, où ils ont perdu beaucoup, à la fois de capital politique, de ressources. Et donc, est-ce que justement ce lien qui se rétablit entre Saoudiens et Iraniens va permettre d'aller vers une fin du conflit? Ça, c'est un point important. On sait qu'il y a d'autres terrains de tension, notamment en Irak, où les deux puissances sont rivales, mais aussi avec le Hezbollah au Liban. Alors là, on sent que côté saoudien, il n'y a pas de volonté de toute façon d'adoucir la position par rapport au Hezbollah, qui est vu comme une menace et qui est soutenu par l'Iran. Bref, il y a beaucoup de sujets sur lesquels on va voir la réalité de cet accord. Ensuite, il y a une question qui est-ce que ça montre vraiment un tournant côté chinois ? Ce qui est passionnant, c'est que ça rappelle d'abord qu'aujourd'hui, on ne peut pas dissocier les dynamiques géoéconomiques et les dynamiques géopolitiques. Parce que la Chine, c'est aujourd'hui le premier importateur de pétrole d'Arabie Saoudite. C'est un pays qui a des intérêts aujourd'hui colossaux au Moyen-Orient sur le plan économique. Et donc, c'est en fait à partir de cette relation économique qu'est née son influence géopolitique. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, il est incontestable qu'aujourd'hui, la Chine veut jouer un rôle plus important sur la scène diplomatique mondiale et que ça montre un petit peu, effectivement, ça peut être vu quelque part comme un tournant ou tout du moins comme la continuité d'une ambition affirmée depuis quelques années. Quand je vois Wang Yi entre ses dirigeants saoudiens et iraniens, ça me fait penser un peu à 73, quand Kissinger, à l'époque, était un des premiers à vraiment bâtir les fondamentaux, avec notamment à la suite de la guerre du Kippour, la diplomatie de la navette, par laquelle il bâtissait les piliers d'une politique américaine au Moyen-Orient. Donc on voit que la Chine aujourd'hui devient un acteur majeur. Ensuite, est-ce que ça veut dire pour autant que c'est la fin de l'influence américaine au Moyen-Orient ? Non, je crois pas. Je crois qu'il faut pas non plus tomber dans cette caricature. Un pays comme l'Arabie Saoudite, en termes de garantie de sécurité, continue de se reposer massivement sur les États-Unis. Les États-Unis vont jouer un rôle très important. En revanche, on est dans un monde multipolaire aujourd'hui, où des puissances comme l'Arabie Saoudite, mais aussi les Émirats Arabes Unis et bien d'autres, essaient de jouer entre différentes cartes, entre la carte chinoise, la carte américaine, et donc ne mettent pas tous leurs œufs dans le même panier.
J'ai quand même l'impression que c'est un accord qui arrange tout le monde. Et c'est le principe d'un accord, mais dont l'affichage arrange tout le monde. C'est-à-dire une Arabie Saoudite qui s'embourbait dans des conflits régionaux très coûteux, sans grand succès d'ailleurs, immédiat, alors que MBS donne surtout l'impression de travailler à son rayonnement mondial, y compris via du soft power, via du tourisme, on voit tout ce qui est fait pour cela, avec la recherche de nouveaux types de tourisme, hein, pas du tout un tourisme religieux. On parle d'un tourisme culturel qui, parfois, se concentre même, comme à Lula, sur des sites pré-islamiques. Donc, pour un pays qu'on présentait comme très rigoriste, c'est quand même un changement majeur. À côté, tu as l'impression d'un régime iranien à l'agonie, qui a des problèmes intérieurs énormes, cette révolution qui est en cours et qui, espérons, ira le plus loin possible, et puis qui n'a plus forcément non plus les moyens de son ambition régionale. Lorsque tu es confronté à de telles secousses internes, c'est souvent ce qui se passe. Et puis à côté de ça, une Chine qui a le plaisir de se montrer en faiseur de paix. Pas en faiseur de roi, mais en tout cas en faiseur de paix. Et puis qui continue sur le plan géopolitique ce qu'elle a construit sur le plan économique. On ne peut pas dissocier les deux. Donc c'est un accord qui, sur le papier, en termes de communication, est assez puissante, mais il faudra vraiment voir la mise en pratique. On peut aussi se poser la question des conséquences pour nous, en Occident, en Europe, en termes de sécurité. Alors, en Israël, on en parle particulièrement, puisque la question du nucléaire iranien est absolument centrale dans le débat politique en Israël.
Alors, pour moi, il y a trois points. Le premier, c'est d'abord, ça a été de voir la réaction de l'administration américaine, où tu sens qu'ils sont un petit peu partagés et perdus sur la manière de répondre. Je m'explique. D'un côté, la réaction de l'administration américaine a été de dire on ne s'y oppose pas. Tout accord entre l'Arabie Saoudite et l'Iran va dans le bon sens. Si la Chine veut jouer un rôle constructif, très bien. Mais en même temps, ça va un peu contre tout un narratif que tu as à Washington, très manichéen, sur la Chine le mal, nous le bien, la nouvelle guerre froide. Et donc, en fait, cette Chine qui jouerait un rôle constructif, ça va un peu contre une grille de lecture manichéenne et binaire. Et donc là, on voit bien que nos amis américains sont un peu... sont pas dans une situation où ils sont très à l'aise. Ça va contre un peu cette tendance qu'a parfois Washington à s'enferrer dans des croisades morales et des visions messianiques. Et évidemment, quand celui que tu essaies de décrire comme ton ennemi a un rôle constructif, ça casse un peu le schéma binaire dans lequel tu essaies d'inscrire ta politique. Donc ça, c'est très intéressant, je trouve, notamment pour nous, Européens, qui essayons d'avoir une voix un peu médiane. Deuxièmement, je trouve que c'est aussi, pour nous, Européens, une leçon. C'est-à-dire que la Chine, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a pu faire cet accord parce qu'elle parle à tout le monde. C'est-à-dire qu'elle parle aux Iraniens, elle parle aux Saoudiens. Le président Xi s'est rendu en visite officielle à Riyad en décembre 2022. Il a reçu le président Raisi en février. Et ensuite, il y a l'annonce de cet accord un mois plus tard. Évidemment, cet accord n'aurait jamais pu être mis en place par les États-Unis parce que les États-Unis ne parlent pas aux Iraniens et ont des relations exécrables avec ce pays. Nous, Européens, je trouve que si on veut exister dans le monde de demain, ça soulève aussi la question de quelle est notre diplomatie. Est-ce que c'est une diplomatie uniquement basée sur la morale, sur les grandes déclarations, et qui veut dire qu'on ne parle pas à une grande partie des acteurs dans le monde? Ou bien est-ce qu'on essaie au contraire, y compris de parler à des régimes qui ne nous plaisent pas, mais pour être capable, à certains moments donnés, de jouer ce rôle un peu de broker, pour reprendre un terme anglais? Et puis, troisièmement, c'est la question effectivement des conséquences à plus court terme. Alors, il y a à mon avis deux champs. Il y a eu un certain nombre d'analyses qui ont dit, et pour revenir à la question d'Israël, ah là là, c'est l'Arabie Saoudite fait le choix de l'Iran versus le choix d'Israël. Bon, à mon avis, cette analyse est complètement fausse et erronée. C'est pas du tout choisir Iran contre Israël. De toute façon, les Israéliens savaient très bien qu'il y avait assez peu de chances que l'Arabie Saoudite rejoigne les accords d'Abraham, tout simplement pour une question aussi sur le plan interne de positionnement de l'Arabie Saoudite historiquement par rapport à l'islam. Ça n'empêche pas, en revanche, qu'il y ait des voies diplomatiques, des voies autres, des canaux un peu plus discrets entre l'Arabie Saoudite et Israël. Bon, ça, c'est le premier point. Et là-dessus, je ne pense pas que ça change fondamentalement la donne. En revanche, c'est sûr que ça renforce un petit peu le régime iranien, et donc ça le met un peu moins dos au mur, et ça veut dire que peut-être que le régime iranien va moins sentir qu'il est obligé de saisir certaines perches qui lui sont lancées, par exemple sur l'accord sur le nucléaire iranien. Et donc là, effectivement, ça va peut-être rendre un petit peu plus difficile des discussions qui étaient déjà extrêmement compliquées avec le régime iranien sur cet accord.
Sur la question du nucléaire iranien, elle est centrale en Israël, mais elle est quand même aussi centrale pour le monde entier. Ce n'est pas qu'une question de la sécurité d'Israël, c'est une question de la prolifération des armes nucléaires. Et on voit bien aujourd'hui, notamment avec ce qui se passe en Ukraine, que ce n'est pas une question abstraite, c'est un fait de sécurité majeur pour tout le monde.
Tout à fait. Mon cher Romain, je crois que le temps est venu de passer à nos coups de cœur, et tu voulais nous parler d'un ouvrage intitulé « En bande organisée », écrit par Sébastien Le Foll.
Oui, alors quitte à décevoir certains de nos auditeurs, en bande organisée, il ne s'agit pas de Jules ni de ses compères marseillais, mais d'un livre très politique qui parle d'une autre bande, on va dire un peu différente. C'est un livre qui parle de quatre jeunes amis au destin singulier. Alors ils sont très à droite, très très à droite, catholiques, d'origine provinciale, qui montent à Paris, ils aiment le pouvoir, ils aiment la politique. Ils vont tous connaître de brillantes carrières. Et puis l'un d'entre eux va devenir le premier président de gauche de la Ve République, François Mitterrand. Alors, l'histoire était assez connue, mais cette enquête très personnelle de Sébastien Le Foll permet non seulement de rappeler cette histoire, de la raconter à ceux qui ne la connaissent pas, mais elle a surtout le mérite plus inédit de tirer et de tisser tous les fils d'une amitié entre ces presque quatre mousquetaires. Une amitié qui va avoir une influence considérable sur la vie politique et des affaires de l'après-guerre à la fin du siècle. Alors, très rapide présentation, tu as François Mitterrand, qu'on ne présente pas, qui va faire la connaissance dès le collège à Angoulême de Pierre de Bénouville, qui sera par la suite grand résistant, homme politique gaulliste, éminence grise de Dassault. Et puis Mitterrand, qui est le point central de ce groupe, va aussi faire la connaissance à Paris, rue de Vaugirard, dans le foyer mariste dans lequel il habite, de deux autres individus qui sont très ambitieux comme lui, André Bettencourt, qui sera ministre plusieurs fois sous De Gaulle et Pompidou, mais qui sera aussi, surtout peut-être même, le mari de Liliane Bettencourt, donc la femme la plus riche de France et la fille du fondateur de L'Oréal, je vais y revenir, le quatrième, et donc François Dalle, qui lui va être un des plus grands patrons français du XXe siècle. C'est lui qui va être le PDG de L'Oréal et qui va faire de L'Oréal le géant mondial que l'on connaît. Donc tout ça est su, mais ce qui est intéressant, c'est que ces quatre jeunes hommes très à droite, dans les années 30, vont être liés plus ou moins directement à la Cagoule, qui est une organisation secrète d'extrême droite, dont l'un des financiers, justement, Eugène Schueller, le fondateur de L'Oréal. Donc on est dans un milieu, on va dire, très sulfureux, et puis la guerre arrive, la déroute face à l'Allemagne, et chacun va avoir des parcours différents, mais tous plus ou moins ambigus, avec des moments de collaboration et des entrées en résistance plus ou moins tardives. Je parlais de Pierre de Bénouville, lui, il fait partie des premiers résistants. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde, on va dire, dans la bande. Et puis, donc Bénouville va d'ailleurs être un compagnon de la Libération, gaulliste parmi les gaullistes. Et à ce titre, il va aider un peu ses camarades. Il va leur sauver la mise, en quelque sorte. Et alors, je ne vais pas tout raconter, parce que c'est vraiment passionnant et il faut vraiment lire ce livre. On est dans du romanesque puissance 1000. On a même du mal à imaginer qu'un tel degré de romanesque puisse exister en politique. Et Mitterrand, qui est bien sûr un personnage central, puisque quand on aime la politique, il va être un président, puis un grand président, il va lui aussi, pendant la guerre, évoluer. Il va rentrer en politique aidé par notamment Eugène Schueller, juste après-guerre, et se faire élire très jeune député de la Nièvre. Pas un député de gauche, hein, en tout cas pas la gauche telle qu'on l'entend, puis avoir une grande carrière sous la 4ème République. Alors, je ne vais pas tout raconter, c'est vraiment pas le but, parce qu'il faudrait qu'on y fasse trois émissions, mais je pense qu'il y a deux aspects qui peuvent nous intéresser tous les deux. D'abord, ça raconte des destins absolument romanesques, entre cynisme, affairisme, sens de la culture, sens de l'amitié, et en lisant, on se dit, on a peine à croire qu'une personnalité comme Mitterrand, certes très, très extrêmement talentueuse, brillante, mais avec un passé si trouble, ait réussi à se hisser jusqu'à la présidence de la République. Alors, il aurait sûrement eu l'intelligence aujourd'hui de s'adapter à notre époque, mais à l'ère de Twitter, de la transparence absolue, etc., on peut penser que sa carrière politique aurait pu durer 10 minutes, hein, pas plus. Et puis, au-delà, et ça fait référence vraiment au sujet que tu viens d'évoquer, géopolitique, même si on est très loin de l'Iran, de l'Arabie Saoudite, c'est une réflexion très intéressante sur la politique, la finesse, la non-binarité de la politique. On voit bien que, même si ça peut fasciner ou répugner, ce livre est aussi une leçon de sagesse, parce qu'il nous invite à voir l'histoire avec recul et discernement. Dans les périodes très agitées, rien n'est tout blanc ou tout noir, tout est toujours gris, et qu'on ne peut pas faire de narration simplificatrice ou moralisatrice. Parmi les membres de l'Action française, donc d'extrême droite, on trouve les premiers héros de la résistance aux côtés de De Gaulle, comme Honoré de Seyndorf. Et à l'inverse, parmi les forces pacifiques, antiracistes, socialistes ou communistes d'avant-guerre, tu trouves aussi les plus vils collaborateurs de Vichy. Et puis au milieu de tout ça, plein de dessins qui jouèrent des doubles, des triples jeux. Alors certains plus talentueux que d'autres, certains plus courageux que d'autres, comme Mitterrand, qui vont jouer après un grand rôle dans toute l'après-guerre et les décennies de reconstruction de la France. Donc c'est passionnant. Et en refermant ce livre, on pense à cette phrase de Céline. Ce monde n'est, je vous l'assure, qu'une immense entreprise à se foutre du monde. Et Mitterrand fait un peu un sphinx en la matière. Jérémy, la transition est difficile là.
La transition est difficile, mais permets-moi de faire une chose qui est de rebondir sur ce coup de cœur, ce qu'on fait rarement. Mais je trouve que, d'abord, ça me donne énormément envie de le lire, ce que tu viens de décrire. Ça montre que Balzac est quand même présent à toutes les époques, parce que c'est quand même des Rastignac ou des Lucien de Rubempré que tu viens de me décrire. Et puis, ce que tu as dit sur les nuances de gris, je trouve que c'est très juste. C'est-à-dire qu'on vit dans une époque qui aimerait des responsables politiques ou autres qui sont faits d'un seul bloc, qui seraient finalement à l'ère de la transparence, d'une pureté qui n'existe pas, parce que l'homme, en fait, évolue et il y a des choses contradictoires parents, lui, etc. Et je pense que c'est aussi ce qu'on doit accepter, c'est-à-dire chez ceux qui nous dirigent, c'est-à-dire que bah, les êtres évoluent, les êtres ont leur part sombre, leur part de lumière, et c'est ce qui les rend aussi passionnants. Et je pense que si tu as dit François Mitterrand est un grand président, alors on pourrait en débattre, parce que je ne suis pas sûr sur son bilan que ce soit un grand président, mais en revanche, c'est un grand président, et ça on peut peut-être s'accorder pour le dire, parce que c'était une grande figure, parce que c'était un homme qui avait une densité, une épaisseur. Et cette épaisseur, il l'a eu parce qu'il est le produit de circonstances historiques et d'une construction intellectuelle. Et je trouve que c'est ça qui manque aujourd'hui. Peut-être que quand je dis à nos responsables politiques manque de colonne vertébrale, intellectuelle, humaine, bah c'est finalement un peu ce que j'essaie de dire sans être méprisant et juste de manière plus anecdotique et peut-être plus pour sourire que François Mitterrand est un homme de droite. C'était quelque chose qui sautait aux yeux quand sa bibliothèque avait été mise en vente aux enchères. On voyait notamment que Jacques Chardonne était un auteur très, très apprécié de l'ancien président de la République.
De Gaulle, mis à part, il est probablement culturellement le président le plus à droite de la Ve République. Enfin, en tout cas, à la lecture de ce livre, ça ne fait pas beaucoup de doutes. Mais vraiment, je te conseille ce livre et je le conseille à tous nos auditeurs parce que c'est vraiment du romanesque et du politique absolu. Donc, transition difficile, Jérémy, mais toi, tu veux parler d'un sujet qui a beaucoup d'importance, qui est géostratégique et qui nous permet d'ailleurs de faire ce podcast aussi. C'est-à-dire les microprocesseurs.
Oui, alors effectivement, moi, une question qui me passionne, et tu le sais, c'est comment les dynamiques géoéconomiques et géopolitiques se rencontrent. Et c'est d'ailleurs mon métier au quotidien, c'est comment finalement aujourd'hui des acteurs, notamment les grandes entreprises, s'intéressent aux dynamiques géopolitiques et sont des acteurs de ces dynamiques géopolitiques. Et il y a un documentaire qui revient sur une de ces questions, sur un de ces secteurs qui est aujourd'hui crucial, c'est la guerre des puces, donc documentaire de Nicolas Vescovacci, qui est disponible sur Arte, mais qui fait aussi écho à un livre qui a fait beaucoup de bruit, notamment aux États-Unis, mais un peu ailleurs dans le monde, intitulé « Chip War », qui a été écrit par Chris Miller. Chris Miller est un jeune professeur de l'université Tufts aux États-Unis. Et en fait, ça décrit cette guerre, donc ces guerres plutôt, sur la question des semi-conducteurs. Et guerre entre à la fois les géants du secteur, donc notamment côté américain Intel, mais aussi TSMC, la grande entreprise taïwanaise leader dans ce domaine, mais aussi les entreprises chinoises. Et puis derrière, guerre entre grandes puissances qui essaient de localiser une partie de la production, et notamment dans les semi-conducteurs les plus avancés, sur leur territoire. Et pourquoi c'est fondamental ? Parce que aujourd'hui, alors on dit souvent que, par exemple, les données sont le nouveau pétrole, mais on peut considérer, sans se tromper, que les semi-conducteurs vont être probablement ce qui va déterminer énormément de grandes dynamiques géopolitiques au niveau mondial dans les 50 prochaines années. Parce que, comme tu le disais, il n'y a pas aujourd'hui un seul objet qu'on utilise dans notre quotidien qui n'a pas des semi-conducteurs. Et ce que l'on a vu, par exemple, au moment du Covid, c'est quand il y a eu une explosion du besoin de moyens de communication technologique, la production de semi-conducteurs n'a pas suivi, et des usines, par exemple, dans le secteur automobile, étaient à l'arrêt. C'était une catastrophe. Apple a perdu 10 milliards de dollars en moins d'un an parce qu'ils n'avaient pas assez de semi-conducteurs pour mettre dans leurs iPhones. Et donc tout ça a une dynamique fondamentale et c'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, le leader du secteur, là où sont produits l'immense majorité des semi-conducteurs dans le monde, c'est Taïwan et c'est TSMC. Et Taïwan qui, par définition, on le sait, est ce territoire qui pourrait être le lieu de la prochaine grande crise géopolitique au niveau mondial. Et donc tout ça conduit aujourd'hui les trois grands blocs, la Chine, les États-Unis et l'Union européenne, à être dans une course pour qui va être capable de relocaliser une partie de la production et produire les semi-conducteurs de demain. Alors, tout ça est absolument passionnant et le documentaire et le livre reviennent là-dessus. Tu as en plus des figures très romanesques, tu parlais de figures romanesques, mais le monde des semi-conducteurs est aussi plein de grandes figures romanesques qui ont aussi eu parfois des appétits politiques. Bref, je ne reviendrai pas en détail, mais tu as des figures assez incroyables. Notamment, une figure qu'on mentionnera, c'est Maurice Chang. Maurice Chang, c'est le fondateur de TSMC à Taïwan. Et c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, a 91 ans passé, et en fait, était parti étudier jeune homme aux États-Unis, avait fait carrière chez Texas Instruments, était très doué, aurait dû être le PDG de Texas Instruments, mais les Américains s'étaient dit « on ne va pas nommer quelqu'un qui n'est pas un vrai vrai américain, entre guillemets, PDG de Texas Instruments. Et en fait, ça a été l'erreur fondamentale de Texas Instruments. En fait, à ce moment-là, Maurice Chang a été, le gouvernement taïwanais l'a rappelé, et lui a dit, est-ce que vous ne voudriez pas monter une entreprise de microprocesseurs ? Et aujourd'hui, plus de la moitié de la richesse de Taïwan, c'est TSMC, et c'est une des entreprises les plus valorisées au monde. Bref. Tout ça fait que les semi-conducteurs sont à la fois passionnants, mais au cœur des dynamiques géopolitiques mondiales. Je soulignerai juste que dans cette bataille, comme souvent malheureusement, l'Union européenne est un peu à la traîne. Et même si l'Union européenne a lancé un plan européen sur les semi-conducteurs en 2022, on semble un petit peu dans une bataille où on met à la fois pas les moyens sur la table et pas nécessairement les ambitions par rapport aux États-Unis, la Chine et d'autres puissances. Et donc voilà, c'est un des grands défis de demain. En tout cas, c'est une bataille passionnante.
Jérémy, merci beaucoup. Ça semble très intéressant et on va voir ça donc sur Arte. Une nouvelle fois, qui nous propose de très bons documentaires. Merci à nos auditeurs de nous avoir écoutés. Merci pour leur fidélité. Que ceux qui ne sont pas encore abonnés le fassent. N'hésite pas à nous noter sur la plateforme favorite. Et puis moi, Jérémy, je te dis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Romain.